Un jour, un livre, un auteur. Et bonjour Diego Arrabal.
Eh, bonjour Philippe, que faites-vous
Eh bien écoutez, j'allais vous dire bienvenue dans les studios de Radio Présence, comme chaque semaine,
Comme chaque...
de début septembre à fin juin de l'année suivante. Nous
fin
sommes
août.
ici,
Non, mais...
voilà, non, juillet, août, voilà, on prend quand même quelques petites vacances, bien méritées, puisque c'est une émission hebdomadaire que nous faisons. La semaine passée, parlons-en, nous étions allés faire un tour du côté du musée Victor Hugo de l'espace. Victor Hugo à Juillan, avec Jean-Claude Rieu-de-Batte, le dynamique président de l'association des Amix de Victor H, pour Victor Hugo. Et il est venu nous retrouver cette semaine, mais cette fois-ci pour nous parler toujours de littérature, bien entendu. Mais c'est un homme, Jean-Claude Rieu-de-Batte, qui a bien des cordes à son arc, dont celle de la littérature, car il écrit poèmes, théâtre, romans. Comment vous en êtes arrivé à l'écriture, Jean-Claude Rieu-de-Batte? Bonjour. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, je ne vous ai pas dit
Bonjour.
bonjour.
Bonjour Philippe,
Voilà,
bonjour.
On démarre bille en tête.
J'ai commencé en fait par le journalisme. J'ai commencé à contribuer à une revue qui s'appelait Gascogne, publiée à Nogaro pendant une quinzaine d'années.
Donc Nogaro dans le Gers.
Oui. Et puis à un journal de Mont-de-Marsan qui s'appelait La Tuile, qui était un bimensuel. Pendant 17 ans, je crois. Et puis,
C'est à
parallèlement.
titre professionnel que vous faisiez ça
Non, non,
ou...
non,
D'accord.
non, comme ça, un titre littérateur.
À titre
Ouais.
littérateur, d'accord.
Et puis, j'ai continué sans doute un peu sur la lancée et je me suis mis à une écriture un peu plus diversifiée. Et j'ai commencé par produire un ouvrage sur le rugby juillanais. De 1921, depuis les origines jusqu'à 1960. Ça s'appelait Aller les Rouges, et j'ai raconté donc toutes ces saisons-là, match par match presque, en allant voir les anciens, en récupérant beaucoup de vieux souvenirs, de vieilles photos, etc. Ça a été le premier ouvrage un peu conséquent que j'ai produit. Après, j'en ai fait un second parce
Et
que.
on le trouve toujours, cet ouvrage.
Non, non, c'est
Il est
épuisé.
épuisé?
Non, c'est
D'accord.
épuisé. Ensuite, j'ai fait, parce que j'ai enseigné pendant 29 ans dans le Lot-et-Garonne, donc je m'étais très attaché à la partie centrale du Lot-et-Garonne, et j'ai fait une étude sur une bastide médiévale qui s'appelle Damazan. C'est au milieu, à peu près à mi-chemin entre Agen et Marmande.
C'est Damazan Mémoire en images, c'est ça que vous
Oui,
avez fait.
voilà, c'est ça.
Je l'ai retrouvé. C'est une collection que l'on
Oui.
retrouve. Alors j'ai vu par
C'est toute une
contre,
série qu'ils ont faite
ouais, sur bien des
sur...
communes en fait où
Oui.
ils font la commune et le canton. C'est
Voilà.
particulièrement intéressant, j'ai trouvé, pour ne pas oublier la mémoire. Et alors, j'ai l'impression que ce qui est un peu le fil rouge, à la fois dans ce qu'on avait vu la semaine dernière et de ce que vous faites aujourd'hui, c'est le cheminement de la mémoire. Vous êtes là pour entretenir la mémoire et être un passeur de mémoire. Je me
Oui,
trompe en disant ça
il
ou
faut
pas?
croire que oui, un peu, je dois être un peu nostalgique, je ne sais pas. Mais bon, ça m'intéressait de voir un petit peu ce qu'il y avait eu avant, longtemps avant, puisque Damazan a été fondée en 1256, si j'ai bonne mémoire. Et il y avait un monsieur dans le village qui possédait un nombre incalculable de documents sur le passé du village. Donc je lui avais dit qu'il faudrait en faire quelque chose, et puis lui, il était mal à l'aise pour rédiger. Alors je lui ai dit, vous classifiez un petit peu les documents par thème, et puis moi je vous ferai le compte rendu écrit, donc c'est ce qu'on a fait à tous les deux.
C'est un peu comme dans le poème L'aveugle et le paralytique.
Oui,
Hein, vous vous souvenez à la fin de
oui,
ce qu'il dit, hein?
oui.
L'aveugle dit au paralytique, je serai vos jambes, et
Voilà,
le paralytique
c'était
dit,
un
moi,
peu
je
ça,
serai vos
oui.
yeux. Hein?
Oui. Sauf que le malheureux, maintenant, il est dans un EHPAD et il a vieilli, lui, bien sûr. Mais enfin, voilà, on a été content de faire ça. Il est épuisé aussi parce que les gens ont été très intéressés de voir leurs ancêtres, parfois, leurs parents, leurs grands-parents, sur les photos de classe, etc.
Il y a un vrai, j'ai l'impression à travers ce que vous dites qu'il y a vraiment une vraie filière pour ce type d'ouvrage,
Oui.
pour que les gens, effectivement, qui soient d'un canton, d'une commune, puissent un peu retrouver leurs origines. Et puis, surtout, comme vous disiez, ces personnes-là qui possédaient tout un tas de documents qui vont se perdre. Hein,
Ah
parce qu'en
oui.
général, ben, après,
Oui,
ça arrive très souvent, malheureusement, quand il y a un héritage, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de ces photos? Bon, allez, au lieu de les mettre aux archives départementales, on balance tout à la benne.
C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui ignorent que tous ces documents-là peuvent être versés aux archives départementales.
Oui, tout à fait.
Moi, je connais un peu des gens qui travaillent aux archives départementales et de façon très fréquente, ils se rendent dans des familles pour récupérer des fonds archivistiques de la famille pour pouvoir les classer.
C'est assez surprenant d'ailleurs parce que même lorsqu'on fait les marchés aux puces, j'aime bien de temps en temps aller au marché aux puces comme ça pour voir ce que les gens vont vendre. Je ne suis pas là, mais j'ai envie de voir ce que les gens ont. Et je vois des gens par moment qui ont de la correspondance, par moment des correspondances de guerre. Première, Deuxième Guerre mondiale, guerre d'Algérie, guerre d'Indochine. Puis qui viennent vendre ça. Alors que c'est un patrimoine familial. Bon, je préfère qu'ils le vendent et puis que, voilà, que ça soit conservé.
Il vaut mieux le vendre plutôt que le jeter.
Exactement. Ouais. Mais
tout le monde n'a pas le respect des anciens. Ouais.
Et ça, je trouve que c'est ça, quand j'ai préparé cette émission pour aujourd'hui, que j'ai vu ce livre d'Amazon, Mémoire en images, et que j'ai regardé, en fait, tous les autres ouvrages. Je me suis dit, en fait, ils font un travail de conservation de la mémoire par rapport à chacune des communes et à chacun des cantons, enfin, qui est assez fabuleux, quoi.
Alors, c'est édité par un Anglais, Alan Sutton, qui est basé dans la Loire, je crois. Et ça, le problème, c'était qu'il veut faire le passé de communes de 5000 habitants. Et nous, on n'y était pas. On était à 1200. On était loin du compte. Alors il nous a dit, bon, vous pouvez faire quand même à condition d'englober les villages du canton, enfin des environs.
Pour arriver à 5000.
Il est arrivé à peu près à 5000, donc il a accepté de l'éditer.
Pourquoi ce seuil de 5000?
Question de rentabilité, je présume.
Je suppose,
oui. Pour arriver à avoir suffisamment...
Pour être sûr de pouvoir en vendre
de
assez.
Pouvoir en vendre,
ce qui se comprend aussi.
C'est vrai qu'on oublie souvent de dire, effectivement, qu'une maison d'édition, c'est aussi un bilan et un compte de résultats. En fin d'année, ben, il faut arriver effectivement à ne pas être
Il s'est vendu aussi, il est épuisé, donc c'est bon signe. Quoi. Une fois, il y a un vélodrome d'Amazon. Il y a un vélodrome.
D'accord.
Un village de 1200 habitants, il y a un vélodrome bâti en 1921 et où on tournait tous les grands champions des années 50. La copie est venue trois fois. Anquetil, Charlie Gaulle, Bahamontes...
Darrigade, qui était un coureur cycliste d'Irlande.
Maintenant, bon, il n'y a plus grand-chose côté cycliste, un petit peu des amateurs, mais une fois, je regardais, il y avait un match au milieu. Au milieu, il y a un terrain de sport, rugby-foot. Et puis, il y avait des dames un peu plus loin. L'une dit à l'autre, vous avez vu le livre qui vient de sortir sur Amazon? Oui, oui, on me l'a envoyé pour ma fête à Béziers, là-bas. Oh là là, j'en ai pleuré.
Oui, forcément. Oui.
J'en ai pleuré de voir tous ces visages que j'ai connus. Et après, je suis allé la trouver et lui dire donc, que c'était moi. Mais oui, les gens ont apprécié, oui.
Je pense qu'il y a un vrai... C'est pour ça que je voulais vous recevoir aujourd'hui, effectivement, pour ces écrits que vous avez faits, notamment sur ce travail de la mémoire. Alors, vous faites aussi des poèmes, des pièces de théâtre.
Oui, j'en ai eu.
Et vous avez joué même les pièces de théâtre que vous avez écrites, que vous mettez en scène.
Pas plus tard qu'en octobre dernier, j'avais écrit une pièce qui s'appelait « Du Rififi à la fontaine ».
Ouais.
Ça a l'air d'être une pièce policière, mais ce n'était pas du tout.
C'est un vaudeville ? Plutôt un vaudeville ?
Non, ça se passait au Moyen-Âge, dans le bas Moyen-Âge, à Juillan, en 1452, un an avant la bataille de Castillon, en 1453, qui a marqué...
Castillon, la bataille.
Qui a marqué la fin de l'occupation.
Donc en Gironde.
Voilà. Et j'ai situé l'action à Juillan, et c'était un conflit entre le bailli du coin, Juillanais.
Alors le bailli, rappelez ce que c'est, un bailli.
C'était une espèce de juge, moitié maire de l'époque. Quoi.
D'accord.
Et puis le gouverneur anglais qui était là aussi, qui partageait le pouvoir. Et puis, bon, c'était une histoire de femmes, évidemment.
c'est marrant, hein, les femmes se retrouvent souvent au centre des conflits.
Chercher la femme,
Oui.
Donc voilà, c'était en cinq actes et en vers.
Et en vers,
ce qui ne se voit plus du tout.
En vers, en alexandrin, vous avez écrit en alexandrin en plus, donc 12 pieds.
Moi, je ne sais pas écrire autrement du théâtre, donc c'était en 5 actes et en vers, et avec les costumes d'époque et tout.
Donc. Avec les mystiches au milieu, donc 6 pieds. Ah oui, donc là, il y a une contrainte littéraire
Mais c'est plaisant à écrire, oui. Alors, c'était héroïque-comique, quoi. Bon, sur le mode un peu, drôlatique. Mais les gens l'appréciaient, je pense, quand même. Ouais. Oui.
Et au niveau des poèmes, poésie,
Oui, et puis j'ai édité, donc c'était l'an dernier, une plaquette poétique qui s'appelait Miscellanée poétique. Miscellanée,
C'est toujours aux
c'est-à-dire.
éditions Le Solitaire ou une autre maison
Oui,
d'édition?
c'était au
Le
solitaire, oui.
Solitaire, donc maison d'édition, je rappelle qu'elle est basée à
Oui,
Tarbes.
à Tarbes, oui.
Rue Kronstadt, c'est ça,
Kronstadt, oui. Et Monsieur Marc Meyraud est le patron, là. Et donc, j'ai rassemblé dans cet ouvrage 30 poèmes, je crois qu'il y en avait, regroupés un petit peu par
tous
thème.
écrits de votre main.
Oui.
Alors en vers.
Oui, bien sûr.
Donc alexandrin,
Oui.
puisque vous savez écrire quoi
Alors,
ça
il y
en
avait
est.
des hexasyllabes, des
Ah d'accord,
octosyllabes.
ok. Donc là vous avez fait une.
Ouais.
Vous, vous, vous êtes sorti un peu du cadre,
Oui,
d'accord.
enfin bon, il faut pas quand même. Ouais. Donc, c'était assez varié sur le thème et sur voilà, l'esprit. Et je les ai aussi épuisés. J'en ai gardé deux pour moi-même, mais bon, voilà.
Bon, et vous avez un projet littéraire là, à venir ou
Oui,
pas?
et alors j'ai fini. Je viens de finir cette semaine à la rédaction de mon dernier, qui est un ouvrage de recherche
Et qui s'appelle?
qui s'intitule, accrochez-vous bien, Victor Hugo et la tauromachie.
Ah, expliquez-nous ça. Victor Hugo était un
Un
passionné de
sujet
tauromachie?
que personne n'a approché
Ouais.
parce que ces grands biographes, genre André Mauroy, Juin, Escolier, enfin, Alain Decaux et son gros pavé de 600 pages, n'en ont jamais parlé parce qu'ils étaient loin des réalités tauromachiques à Paris, là-bas. Mais moi qui suis un peu au milieu là, j'ai été frappé par le nombre de fois où le terme de taureau revenait sous sa plume. Et j'ai pensé qu'il y avait quand même quelque chose à creuser là. Et effectivement, en relisant son œuvre, une grande partie de son œuvre, j'ai trouvé plein, plein, plein de références au monde de la tauromachie. J'en ai corrigé quelques-unes parce qu'il s'était un peu trompé, mais voilà.
Ça veut dire que c'est un peu un travail universitaire quelque
Oui,
part que vous avez fait?
il y a de ça,
Bon,
oui.
parce qu'on a un HDR ici hein, avec nous, hein, c'est-à-dire Diego Arrabal, hein,
Oui.
qui est un thésard et qui est habilité à diriger des recherches.
Ah
C'est ça,
oui.
HDR,
Oui,
si
moi
je
je
lis bien?
l'étais, là.
Vous l'avez été? Ah,
Là, je suis à la retraite,
ah, c'est, oui, c'était
là.
au siècle dernier.
C'était en 1800 et quelques.
Mais
non, tu exagères.
Non, c'est parce qu'il est contemporain de Napoléon III, qui était plus
Ah,
jeune que lui.
d'accord,
Voilà,
oui. Ah oui, Napoléon III était plus
il
jeune
était
que
plus
moi.
jeune que moi. Voilà. Et quand est-ce que vous allez le sortir au solitaire aussi?
Alors, oui, j'ai fini la rédaction. Moi, j'écris, je ne tape pas, je ne sais pas taper, donc j'ai écrit au stylo, et puis je confie ça à une secrétaire qui va prendre le temps de l'enregistrer, et puis je vais porter la clé USB à.
Combien de pages alors
Il y a 130 pages, moins, après, il y aura les illustrations en plus, donc ça
D'accord.
fera 150 pages, je pense, oui.
D'accord.
Quelque chose comme
Et
ça.
donc le point de vue que vous défendez à l'intérieur, c'est que Victor
Alors.
Hugo était un
Je ne dis pas.
aficionado?
Bon, le titre, c'est Victor Hugo, tauromache, point d'interrogation.
D'accord.
Parce que, bon, je ne dis pas qu'il était aficionado à los toros. Simplement, je pense qu'il a été grandement influencé par son frère aîné, Abel, qui a écrit deux nouvelles sur la tauromachie espagnole, très tôt. Et puis, après, il a eu un désagrément dans les arènes d'Orthez, quand il est passé en 43 avant de venir ici, à Lourdes et aux Pyrénées centrales, il a été refusé, on lui a refusé l'entrée aux arènes d'Orthez, parce que l'adjoint au maire tenait pour les classiques et n'était pas pour les romantiques.
Ah, d'accord, ok.
Et il lui a
Ça
dit,
tient à peu de choses.
jamais de la vie, il n'y aura une place pour vous dans les amphithéâtres d'Orthez. Et il ne l'a pas laissé rentrer.
D'accord.
Alors il est parti la tête basse. Sauf que près de 20 ans après, quand il a rédigé Les Misérables à Guernesey, là, il s'en est souvenu et il lui a réglé son compte dans Les
S'appelait
Misérables.
les Thénardier?
Non, c'est
Ah.
L'Amatabois, il
Ah.
s'appelait. Et il y a tout un chapitre qui s'appelle Le désœuvrement de Monsieur Bamatabois. Et il a écrit voilà, un chapitre au vitriol sur. Alors, j'ai enquêté un peu là-dessus et j'ai retrouvé une partie de la famille, des descendants qui m'ont confirmé la chose. Que
D'accord.
c'était l'arrière-arrière-grand-père, m'a dit le monsieur qui est mort maintenant, qui avait 92 ans quand je l'ai contacté. Il m'a dit, oui, j'ai toujours entendu cette histoire dans ma famille. Ah bon, donc vous confirmez? Oui, je confirme, oui. Donc voilà, donc ça me paraissait intéressant. Et puis après, pour finir, il y a eu donc la partie tauromachie espagnole, la partie tauromachie landaise, et puis il y a, aux dernières nouvelles, la partie tauromachie provençale, puisque la course camarguaise a aussi à voir avec la famille Hugo, Jean Hugo, qui était l'arrière-arrière-petit-fils, qui était dessinateur, décorateur, etc., a vécu à Lunel, à côté de Lunel, dans l'Hérault.
Dans l'Hérault, c'est ça.
Ça doit être limite Hérault-Garmes.
Ouais, ouais, c'est ça, ouais.
Et donc, il a fréquenté le monde de Taurin Camarguais, et puis sa fille, qui s'appelle Marie Hugo aussi, décoratrice, peintre, etc., artiste, aussi a fréquenté le milieu. Donc, il y a une belle continuité depuis 1811 jusqu'à 2026. Voilà. Donc, il y a beaucoup à dire là-dessus.
Bon, eh bien, vous reviendrez nous voir. Vous savez quand est-ce qu'il va sortir ? Vous avez une idée ou...
Bah après, je ne suis plus maître des horloges, là, mais vraisemblablement à la fin de l'été, je pense.
Bon,
voilà.
2026, ça, on
est
d'accord,
année,
fin de l'été 2020.
Oui,
bah, écoutez, oui, ben, on vous réinvitera en début septembre pour nous présenter cet ouvrage. Et puis, ben, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir Marc Méraud qui soit donc avec vous en tant qu'éditeur pour savoir pourquoi, qui nous donne un peu le point de vue de l'éditeur, pourquoi il a choisi effectivement ce livre, sachant que vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Victor Hugo est venu dans les Hautes-Pyrénées, donc 1843.
Il est passé à Lourdes, évidemment, il est passé à Juillet.
Il est passé à Juillet.
Ah, il est passé à Juillet.
On sait les lieux où il est passé.
Oui, bien sûr, mais bon, c'était à ce qu'on appelle, nous, la route de Lourdes, de Tarbes-Lourdes, mais à l'époque, en 1843, il n'y avait rien, Il y avait des champs, des prés, des bois, mais il n'y avait rien. Donc il ne s'est pas arrêté, il n'y avait pas de raison qu'il s'arrête, quoi. Mais enfin, il est passé sur le territoire de Juillet, hein. Et Lourdes aussi, évidemment, à l'aller et retour.
Bon, mais c'est un bel hommage que vous l'avez rendu. Hein, la semaine dernière, on en parlait avec ce musée, cet espace, espace-musée, on va dire, espace-musée Victor Hugo. Voilà, pour s'attirer les foudres des personnes, l'association, les Amix de Victor H. Et puis, cette particularité que vous avez, vous écrivez donc des pièces de théâtre, des poèmes en alexandrin, et puis ce livre, Victor Hugo, et la tauromachie, que vous allez sortir.
Et je précise aussi que l'an dernier, j'ai publié un ouvrage sur la vigne et le vignoble juillanais.
Ah, je ne savais pas qu'il y avait eu du vignoble.
Puisque je suis encore un peu vigneron aussi. Et donc, je tenais à évoquer tout le passé de la viticulture locale.
Bon, il est épuisé, celui-là aussi,
oui.
Ou pas ?
Ah,
bon, donc, vous avez que vous n'avez... Voilà, d'accord.
Je suis victime de mon succès.
Vous êtes victime de votre succès. Bon, ben, écoutez...
C'est bien.
Bon, eh bien, écoutez, on vous retrouvera de toute manière en septembre pour ce livre entre Victor Hugo et la tauromachie, donc écrit, on le rappelle, hein, par une personne en Bigorre, mais qui va intéresser bien au-delà de la Bigorre, pour celles et ceux qui s'intéresse, on ne peut pas d'ailleurs ne pas s'intéresser à Victor Hugo, hein, que ça soit à la fois l'écrivain, le personnage politique, le personnage engagé, donc notamment contre la peine de mort, avec donc le dernier jour d'un condamné, hein, qu'il avait écrit, et quand dans les années 50, Albert Camus et Arthur Koestler donc vont militer contre la peine de mort en Europe, ils se référeront à Victor Hugo et le ministre donc de la justice
Badinter
qui est mort il y a pas très longtemps, dans son discours en 1981, fait référence à Victor Hugo et au dernier jour donc d'un condamné à mort. Je voulais pas terminer cette émission sans en parler parce que il est rentré donc au Panthéon, et je rappelle juste que Victor Hugo, quand il a été enterré, il avait demandé à ce que son cercueil soit mis sur le char des pauvres.
Oui, exact.
Voilà.
Et il avait donné une somme d'argent aussi pour les pauvres.
Oui, voilà, tout à fait. Et c'était effectivement pour rappeler ça. Et comme ça, ça va permettre effectivement aux personnes de se replonger un peu dans toute l'œuvre de Victor Hugo. Vous parliez des contemplations tout à l'heure, de ces magnifiques poèmes. Hein, et puis notamment, moi, ce poème que je préfère, vous le citez tout à l'heure par rapport à sa fille Léopoldine, qui est morte tragiquement, hein, donc noyée, avec Julien Drouet, si je me rappelle bien.
Avec Charles Vaquerie.
Charles Vaquerie, pardon, son mari. Et d'ailleurs, on peut voir les tombes.
Oui,
encore,
bien sûr, à Villequier.
Voilà, à Villequier.
Et pour l'anecdote, elle s'est noyée le jour même et à l'heure même où Juliette Drouet et Victor visitaient la cathédrale d'Auch.
D'accord, ça je l'ignorais par contre.
Ils visitaient la Sainte-Marie, la cathédrale d'Auch, et c'était cet après-midi-là. Après-midi funeste.
D'accord.
Et il ne l'a su que plus tard, évidemment.
Et il ne l'a su que plus tard, effectivement. Eh bien, On vous remercie vraiment, Jean-Claude Rieudebatte, d'être venu partager ces moments avec nous. On vous retrouvera pour la sortie donc, de cet ouvrage Victor Hugo donc, et Tauromache, hein, ça sera le titre, donc, qui sera publié aux éditions donc, Le Solitaire, maison d'édition basée à Tarbes, hein, on le rappelle, hein, maison d'édition occitanie qui fait vraiment de très très beaux livres. Voilà ce que l'on pouvait dire. Diego Arrabal.
Et oui, et on va devoir se quitter, je pense.
Et oui, c'est comme ça. Mais on se retrouve.
Toutes les bonnes choses ont une fin.
Oui,
on
se retrouve.
Mais on va se retrouver.
Oui.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
Voilà. Et on pense à remercier toujours ceux qui sont dans l'ombre. Hein, on oublie souvent.
Ah, ils ont allumé la lumière, là.
Ah, ils ont allumé la lumière, là. C'est pour ça qu'ils nous font signe à chaque fois. Donc, un studio qui nous permet effectivement d'être là et de faire cette émission modeste, on le dit souvent, mais géniale, qui s'appelle un jour...
Modestement génial ou génialement modeste, comme on veut.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.